Jack London, Le Vagabond des Étoiles, chapitre 10. Un sourire quand même. Le lendemain matin, et ce fut ce qui acheva de me décider, le gouverneur Atherton pénétra dans mon cachot avec des intentions mauvaises, bien arrêtées. Il était flanqué du capitaine Jamie, du docteur Jackson, de face de tourte, et d'un nommé Al Hutchins. Hutchins purgeait une condamnation de 40 ans et faisait tout pour être gracié. De tous ses pareils qui étaient passés hommes de confiance, il était le mieux en cour, il était le chef des autres. Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas une méprisable situation quand vous saurez qu'à ce métier il se faisait $3,000 par an de ses tours de bâton. Avec un homme comme lui, possédant un pécule de 10 à 12 000 dollars et une promesse de grâce dans sa poche, le gouverneur Atherton savait, quels que fussent ses ordres, qu'il pouvait compter être aveuglément obéi. Le gouverneur, comme je l'ai dit, entra dans ma cellule avec des dessins meurtriers. Il se lisait sur son visage. Ses actes le prouvèrent. « Examinez-le, » ordonna-t-il au docteur Jackson. Je dus me déshabiller, et ce misérable avorton m'arracha lui-même la chemise, incrustée de crasse, que je portais depuis mon arrivée dans ma cellule d'isolement. Il mit à nu mon pauvre corps, dévasté, dont la peau était ridée comme un vieux parchemin. Partout, elle était ravagée de plaies et de meurtrissures, provenant de mes nombreuses séances dans la camisole. L'examen fut fait pour la forme, avec une impudente hypocrisie. « Tiendra-t-il ? » demanda le gouverneur Atherton. « Oui, » répondit Jackson. « Comment est le cœur ? » ?»« Magnifique. »« Vous estimez, docteur, qu'il peut supporter impuniment 10 jours consécutifs de camisole ?»« Certainement. » Le gouverneur Atherton eut un ricanement. « Eh bien, moi, » dit-il, « je ne le crois pas. » Mais cela ne nous empêchera pas de tenter l'expérience. À bas, Standing. J'obéis comme toujours, en m'allongeant la face sur le sol, sur la toile étendue. Le gouverneur parut ruminer pendant un moment. Enroule-toi dedans, finit-il par ordonner. Je m'efforçais d'obéir, mais telle était ma faiblesse que je ne pus que me tortiller en vain et que je demeurai aplati. Il faut l'y aider, commenta le docteur Jackson. Atherton haussa les épaules. Dead, dit-il, il n'en aura plus besoin quand j'en aurai fini avec lui. C'est bon. Prêtez-lui la main, j'ai autre chose à faire que de perdre mon temps ici. Je fus donc lassé, puis roulé sur le dos. Je fixai des yeux dans cette position le gouverneur Atherton, qui était en face de moi. « Standing, » prononça-t-il, lentement, « j'ai épuisé avec toi tous les bons procédés. En voilà assez. Je suis lassé, dégoûté de ton entêtement. Ma patience est à bout. Le docteur Jackson, ici présent, affirme que tu es en état de supporter 10 jours de camisole. Pèse bien ce que tu risques. Une dernière fois, je t'offre une chance. Dis-moi où est la dynamite. À l'instant précis où elle sera entre mes mains, j'ordonnerai qu'on te tire de cette cellule. Tu seras libre de prendre un bain, de te raser et tu recevras des vêtements propres. Tu auras 6 mois pour te tourner les pouces, au régime d'excellente nourriture de l'infirmerie. Après quoi tu passeras homme de confiance et tu seras attaché à la bibliothèque. Tu ne peux vraiment pas me demander d'être plus gentil que je ne suis. En parlant, tu ne vends personne. Tu es le seul à Saint-Quentin qui sache où est la dynamite. Pas un de tes camarades n'en sera compromis. La conscience la plus chatouilleuse ne peut s'offusquer de te voir céder. Il n'y a donc que des avantages à ce que tu parles. Au cas contraire, il y eut un silence et le gouverneur esquissa un geste significatif. Au cas contraire, eh bien, tu commenceras sur le champ les 10 jours de camisole. Cette perspective avait de quoi m'épouvanter. J'étais si débile que j'étais persuadé, non moins que le gouverneur Atherton, que les 10 jours équivalaient à un arrêt de mort. En cette minute terrible, je me souvins fort à propos du système Morel. L'instant ou jamais était venu de le mettre en pratique et d'avoir foi en lui. Je ne baissai pas les yeux et souris au gouverneur Atherton. Ce sourire était celui d'un croyant et d'un croyant était la calme proposition que je lui formulai. Gouverneur, regardez mon sourire. Si dans 10 jours, lorsque je serai délassé, vous le trouvez encore sur mes lèvres, consentez-vous à me donner un paquet de dirhams et 2 autres à Morel et à Oppenheimer ? Les voilà bien, ces intellectuels, grognant en sourdine le capitaine Jamie. Ils se croient supérieurs aux autres hommes et les bravent dans leur orgueil. Le gouverneur Atherton, qui était colérique de sa nature, éclata. Il prit ma proposition pour une bravade et clama « Ce que tu viens de dire, Darrell, te vaudra d'être serré d'un cran de plus. » J'ai parlé sérieusement et en toute loyauté, gouverneur Atherton, répondis-je. Sans me départir de mon calme, vous pouvez commander qu'on me serre aussi étroitement qu'il vous plaira. Si dans 10 jours j'ai encore ce même sourire, consentez-vous à nous donner à nous trois, Morel et Oppenheimer, les 3 paquets de papier brun. Il riposta. Tu sembles bien sûr de toi. La foi la plus complète est entrée dans mon cœur. Tu t'es converti alors, ricana-t-il. Naturellement, je prétends simplement qu'il y a plus de vie en moi que vous ne croyez, et que de cette vie, vous ne sauriez trouver le terme. Donnez-moi à votre gré 100 jours de camisole. Après 100 jours en vous regardant, je sourirai encore. 100 jours, à quoi bon? Après 10, tu auras démissionné de l'existence, et largement. Si c'est votre pensée, promettez-moi les 3 paquets de tabac. Que risquez-vous? Veux-tu plutôt et tout de suite mon poing dans la figure? Si tel est votre bonheur, ne vous gênez pas, répliquai-je, toujours suave et convaincu. Et tapez fort, même en marmelade, ma figure saura vous sourire. Voyons, n'hésitez pas, acceptez plutôt le pari. Il faut qu'un homme soit singulièrement bas et désespéré pour oser rire comme je le faisais, en de telles circonstances, à la barbe du gouverneur. Ou plutôt, il faut qu'il ait une foi bien sincère dans la réalité de son offre. Le capitaine Jemmy parut sentir cette foi qui me soulevait tout entier. Je me souviens, dit-il, d'un ancien prisonnier qui tenait de semblables propos. C'était un Suédois, il y a de cela 20 ans, et vous n'étiez pas encore ici, gouverneur. Cet homme en avait tué un autre pour 25 cents, ce qui lui a valu d'être condamné à mort. Il était cuisinier de son métier, lui aussi avait la foi. Il racontait qu'un char d'or venait le prendre sur la terre pour le conduire au ciel. Et un beau jour, il s'assit sur le fourneau de la prison qui était chauffé à blanc, en chantant des cantiques et des hosannas, tout en grillant. On l'en arracha quand on l'y trouva. 2 jours après, il mourut à l'infirmerie. Il avait eu la chair brûlée jusqu'aux os. Mais jusqu'à son dernier soupir, il affirma n'avoir point senti la chaleur. Et je vous dis, moi, fulmina Atherton, que nous forcerons Standing à se dégonfler. Je réitérai mon défi. Alors, promettez le tabac. En une telle colère était le gouverneur qu'il m'eût prêté à rire si ma situation n'avait été aussi tragique. Il avait le visage convulsé, il serrait les poings, et je vis le moment où il allait tomber sur moi à bras raccourcis. Il fit un effort sur lui-même et redevint maître de lui. « Il suffit, Standing, tu seras maté. Et à défaut de tabac, je parie ma main à couper, qu'en dépit de la solidité de ton coffre, tu ne souriras pas dans 10 jours. Allons, mes petits, enroulez-le et serrez jusqu'à ce que vous entendiez craquer ses côtes. Montre-lui, Chins, comment tu opères. » Je fus effectivement enroulé et lassé comme jamais encore je ne l'avais été. L'homme de confiance en chef me prouva sans discussion possible son habileté. J'essayai de carotter le plus d'espace réalisable, mais je m'étais depuis si longtemps dépouillé de presque toute ma chair, mes muscles étaient réduits à des fibres tellement amorphes que je fus incapable de subtiliser grand-chose. Le peu que je me ménageais, je l'obtins par une sorte de gonflement des jointures à toutes les articulations des os de ma charpente. Encore en fus-je subtilement frustré par Hutchins, qui avait, par sa propre expérience, appris toutes les ruses de la camisole. Ce misérable avait été un homme, cependant, mais on l'avait brisé sur la roue, et tout son moral s'était éteint en lui. 6 à 12 000 $ et sa liberté en perspective avaient fait de lui l'esclave du gouverneur. J'ai su plus tard qu'il y avait aussi une femme demeurée fidèle et qui l'attendait. Le facteur féminin explique bien des actes de l'homme et des plus vilains. Ce fut en réalité un véritable meurtre, accompli de propos délibérés, dont Hutchins se rendit ce matin-là coupable envers moi. Le pied sur mon dos, il tirait le lacet, toujours un peu plus, s'arrêtait, puis tirait encore. Il me semblait que ma charpente allait céder sous cette compression inusitée, que tous mes organes vitaux allaient s'anéantir. Je savais que je ne mourrais pas. Oui, je le savais, et pourtant il me semblait que la mort était sur moi. La tête me tournait, mon sang battait à briser mes veines et mes artères, des ongles de mes orteils à la racine de mes cheveux. C'est assez serré, intervint bien à contre-cœur le capitaine Jemmy. J'opine de même, déclara le docteur Jackson. Vous serreriez jusqu'à demain que le résultat sur lui serait le même. Ou il est à bout, ou il devrait être mort depuis longtemps. Le gouverneur Atherton se pencha vers moi. Après maints efforts, il réussit à insérer son index entre la toile et mon dos. Il fronça le sourcil, mit à son tour le pied sur mon corps et tira, de toutes ses forces, sur le lacet. Mais il ne put gagner quoi que ce soit en plus. « Hutchins, dit-il, je tiens mon chapeau devant vous. Vous vous y connaissez supérieurement. Et maintenant retournez-le afin que nous puissions voir sa binette. » On me roula sur le dos, je fixai des yeux le cercle de mes tortionnaires. Ce que je sais bien, c'est que si l'on m'avait lassé comme je l'étais la première fois où je fus mis en camisole, j'en serais mort en 10 minutes. Mais j'étais entraîné. J'avais derrière moi des milliers d'heures de ce supplice. Puis j'avais foi dans le système moral. Goguenard, le gouverneur Atherton, persifla. « Ris donc maintenant, damné que tu es. Allons, ris un peu, et commence par sourire si tu le peux. » mes poumons écrasés haletaient vers un peu d'air. Mon cœur menaçait d'éclater, mon cerveau vacillait, et pourtant, un sourire à l'adresse du gouverneur Atherton se dessina sur mes lèvres.